Vous écoutez Quoi de Meuf ? Le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture toutes les trois semaines. Je suis Mélanie Wanga.
Je suis Clémentine Gallo. On est toutes les deux journalistes.
Cette émission, c'est une conversation à deux dans laquelle on discute aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna.
C'est parti. Bienvenue. Cette semaine, on va parler des règles et du nouvel activisme périodique. Comment ça va, Mélanie ?
T'as tes règles ? Rire gras.
Non, mais déjà, je suis très contente de te revoir, enfin, oui. Dans ce podcast.
Re-welcome.
Alors, pour info, je n'ai pas mes règles, mais j'ai pris quand même une décision assez tranchée, puisque j'ai décidé de quitter tous les réseaux sociaux détenus par notre ami Mark Zuckerberg. Mmh. En fait, j'en ai marre.
Donc, ça fait beaucoup.
Quoi. Ouais, ça fait beaucoup. Hein, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours, les fondateurs de WhatsApp, comme WhatsApp a été racheté par Facebook, les fondateurs ont quitté Facebook en disant que Mark espionnait nos conversations et qu'il allait les vendre et que c'était pas bon, en fait, pour les démocraties internationales d'avoir un seul mec qui contrôle à la fois Facebook, Instagram et WhatsApp qui réunit des milliards d'utilisateurs. Mmh. Hein. Facebook, je crois que c'est 2 milliards d'inscrits.
Qui en plus ne fait que s'excuser.
Voilà.
A posteriori.
En plus, c'est ça, quoi. Tu peux même pas lui faire confiance parce que quand on lui pose des questions, il fait bah ouais, en fait, désolé, on a merdé, quoi.
Ouais.
Donc, que faire des GAFA, en fait, les Amazon, Gmail, Apple, Facebook, c'est une vraie question. Mmh. C'est un truc qui me travaille vachement en ce moment.
Faut télécharger Tor.
Oui, alors il y a Tor, il y a Signal, en application qui est un WhatsApp light un peu. Mm. Malheureusement, sur Signal, je l'ai installé, j'ai genre 3 contacts qui ont l'appli, donc voilà.
Ouais, laisse pas traîner tes données, Mel.
Ouais, c'est ça. Et reste à trouver une solution pour Gmail, mais bon, c'est pour un autre jour. Et toi, ça va ?
Alors moi, j'ai enfin déménagé. Voilà, j'y vais dans beaucoup de cartons, avec une seule paire de chaussettes sales. Et à l'occasion de ce déménagement, je me suis débarrassée d'un ouvrage très lourd sur Woody Allen.
Ah.
Donc voilà, désolée.
Ah, problématic
mais,
book.
Mais pas désolée, ouais, c'est ça, je l'ai lourdé.
Tu l'as offert à quelqu'un
au passage, non, je l'ai offert à une librairie solidaire qui est en bas de chez moi.
Bon, c'est bien.
Au moins, ils pourront se faire des sous.
Bravo Clémentine. C'est ça. Alors, comme tu l'as dit, cette semaine, on va parler d'un champ de réflexion dont se sont quand même joyeusement emparées les féministes, les règles et tout ce qui les entoure. Ça va saigner ?
There will be blood. Alors, un petit rappel historique. Déjà, il faut savoir qu'au temps jadis, les femmes avaient très peu leurs règles parce qu'elles étaient soit très mal nourries, soit tout le temps enceintes, soit déjà mortes, en fait, vu l'espérance de vie à l'époque. Et donc, finalement, ça fait très peu de temps qu'on a nos règles pendant des dizaines et des dizaines d'années, comme c'est le cas aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on se demande un peu comment est-ce que le corps peut encaisser ça.
C'est 40 ans à peu près de règles qu'on a ?
À peu près, ça dépend des morphologies, ça dépend des gens. C'est sans doute pour ça aussi qu'on est nombreuses à avoir des carences, n'est-ce pas ? Carences en fer et autres.
L'anémie, manque de fer.
C'est ça.
On connaît ça.
On connaît. Et c'est vrai que tout le tabou et le stigmate qui entoure les règles remonte à loin, au point que il y a longtemps, on disait que les femmes étaient impures durant cette période et que leur sang putride faisait crever les chenilles dans les champs. Donc c'est quand même un super insecticide naturel, ouais. Plutôt que d'aller à Jardiland.
Plutôt que Monsanto.
C'est ça. Et aujourd'hui, voilà, la version de ça, c'est de dire que ça fait tourner la maillot, donc ce qui est quand même une expérience pas du tout scientifiquement prouvée, mais c'est pas grave. Et donc pour avoir d'autres rappels historiques sur les règles, on vous recommande toutes les deux le livre d'Élise Thiébaud, qui est très documenté, qui s'appelle « Ceci est mon sang », dans lequel elle parle de tous les mythes et légendes les plus farfelus autour des règles, et notamment de l'origine des expressions fleuries comme « avoir ses ours », qui viendrait de « avoir ses jours ».
Ouais. Voilà. D'ailleurs, Élise Thiébaud, qui est amie de la newsletter et du podcast,
oui.
On la salue. On peut aussi parler de l'historienne américaine Joan Jacobs Brumberg, qui a montré au début du siècle dernier aux États-Unis que les menstrues sont devenues de plus en plus médicalisées, en fait. Et comme on sait, les médecins étaient en majorité des hommes.
Comme d'hab.
Voilà, comme d'hab. Et c'est eux, d'ailleurs, qui coachaient les mères à dire à leurs filles qu'il fallait être propre et surtout discrète. Il ne fallait pas parler de ces règles, en fait. Donc, on passe d'un signe de féminité et du fait de devenir une femme à une espèce de crise hygiéniste où cacher ces règles que je ne saurais voir. Et on peut relier ça, en fait, à la peur qui continue aujourd'hui à exister, en fait, des filles et des garçons sur le sang des règles, quand elles arrivent, quand on est jeune. et au sang bleu dans les pubs aussi. Mmh. Parce qu'il ne faut pas le montrer, donc il ne faut pas en parler. Donc on met du sang bleu.
Moi, je suis très nana.
Ouais, ouais, comme quoi on est toujours un peu à l'ère victorienne finalement. Ouais. Et quelle est notre expérience personnelle et notre rapport à notre utérus comme...
Attends, je fais ma voix de Lorraine Bastide, t'es prête? Quel est ton rapport à ton utérus, Clémentine?
Mais toi d'abord, Mel.
Bisous Lorraine. Alors, moi, j'ai une anecdote. Quand j'étais au collège, il y a un garçon qui a ouvert mon sac dans la cour de récré.
Comme
mon
ça,
sac
tranquille.
À dos. Ouais. Il se trouve que j'avais des serviettes, en fait, dans mon sac. Et il a sorti mes serviettes en disant « Ah, regardez, regardez !» Même si, à la
Super.
Base...
Je,
voilà, tu vois. Même
constructif.
Si à la base, j'avais pas spécialement honte de mes règles, là, ça m'a bien rappelé qu'en ouais. fait, c'était un truc qu'il fallait absolument pas qu'on voit. Mmh. Et ça m'a assez marqué, en fait.
T'aurais dû lui jeter à la gueule.
Bah ouais, mais tu sais, t'as pas le réflexe, quoi. C'est comme quand j'entends des gamins aujourd'hui qui disent « Ouais, il m'a dit ça », genre « Bah, il faut lui répondre ça, que c'est le patriarcat
ouais. !»
Mais ouais, c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, j'étais pas fan des règles, juste pour les raisons pratiques. Je trouvais ça un peu encombrant, gênant... Après, j'ai toujours trouvé ça bizarre et même négatif que les gens se moquent des autres ou des filles qui mmh. avaient leurs règles. Je trouvais ça, je disais, mais attendez, c'est la vie, quoi. Enfin,
ouais, surtout si vous êtes née, c'est bien parce que quelqu'un a eu ses règles avant. Donc en fait,
voilà.
Comment te dire?
C'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que le côté le plus embêtant pour moi pour les règles, c'est que à chaque... En gros, pendant 2 jours, chaque mois, je fais un pic de dépression. Quoi. Mmh. C'est-à-dire que je me dis, oh, j'arrive à rien, ma vie c'est de la merde. Mais vraiment
le
très fort.
Le fameux SPM.
Voilà. Ouais. Mais ça se manifeste plutôt, genre je me roule en boule chez moi et j'ai envie de parler à personne. Quoi. Je suis pas énervée, à gueuler. Quoi. Mmh. Mais oui, quand même, je trouve que voilà, c'est pas un truc qu'on va dire, m'épanouit beaucoup. Quoi. Mmh. Et toi?
Moi, un peu pareil. En fait, moi, je les ai eus super tard. Donc, du coup, personne ne fouillait dans mon sac à l'école. Je les ai eus tard parce que j'étais malingre ouais. à l'époque.
Tard, ça veut dire t'avais quel âge?
Genre 16 ans, un truc comme ça.
Ah ouais,
ouais.
Wow.
Enfant sous-développé.
Non, mais c'est cool, du coup, t'en as eu moins.
Oui, oui, c'est ça. Et c'est vrai que dans mon groupe d'amis, il y a des filles qui adorent ça parce que ça les rassure, qu'elles savent qu'elles ne sont pas enceintes. Et pour moi, c'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire que c'est un fléau, une nuisance, et c'est un peu comme une maladie chronique, en fait. Enfin, vraiment, je ne vois pas l'utilité, quoi, de souffrir, et en fait, ça me fait tellement mal que du coup, je prends la contraception en continu pour ne pas les avoir.
Ah ouais?
Ouais, donc comme ça...
Et ça va, t'as pas de... effet secondaire ou quoi que ce soit?
Non, pas trop. Enfin,
tu recommandes?
C'est vrai qu'après, il n'y a aucune contraception idéale, malheureusement. C'est encore un autre problème. Mais je préfère avoir des effets secondaires que d'être au bord du malaise pendant plusieurs
ouais.
jours. Quoi.
Donc ouais.
en fait, voilà, j'ai pas trouvé de solution parfaite.
On a reçu le témoignage de Cécile qui vit en Turquie et qui nous dit « Depuis que j'ai une cup, ma vision du sang des règles a changé. Je veux aussi me faire dessiner par une fille avec mon sang. Oui, ça peut sembler étrange. » Et en Turquie, et j'ai montré ma cup à mon mec, ce qui en fait l'un des hommes turcs les plus modernes sur la question. Les femmes ne mettant encore que très peu de tampons ici.
On a aussi reçu le témoignage d'Ariane, qui, elle, raconte pourquoi elle adore avoir ses règles. On l'écoute.
Je pense pas être à proprement dit une activiste des règles, mais en fait, je le suis devenue assez naturellement et je le fais un peu au quotidien. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais un contraceptif qui a arrêté mes règles pendant 4 ans. Et en fait, je suis allée voir mon gynécologue en hurlant un petit peu et en disant que c'était pas possible et qu'il fallait absolument que je retrouve mes règles. Donc j'ai changé de stérilet et je suis revenue à ce que j'avais avant. Ce qui je trouvais embêtant, c'est cette impression de pas avoir de rythme de vie et une sorte de cycle, en fait. Au-delà du fait que je pense que ça touche la libido et la sexualité et comment fonctionne notre corps, il y avait vraiment un truc de se sentir plus proche de quelque chose de normal.
Donc on l'a bien compris. Que ce soit une malédiction ou une joie pour les unes et les autres, c'est aussi et surtout une question politique. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et c'est vrai que ça fait un moment que le féminisme s'est saisi de ces questions-là. Ces temps-ci, le militantisme et les pratiques se sont particulièrement renouvelées, je trouve.
Ouais, les règles, on le vend en poupe.
Ouais.
En fait, c'est surtout parce que c'est devenu une bataille symbolique. On lutte contre le period shaming, Donc, on se rappelle toutes cette peur d'aller au tableau, de peur d'avoir une grosse tache rouge sur les fesses.
Yep.
Voilà. Donc, pour ça, ce qui est intéressant, c'est que les réseaux sociaux aussi ont beaucoup censuré les règles, les images de sang menstruel.
Merci à eux.
Voilà. Merci les mecs. Et c'est vrai que la poétesse Rupi Kaur, elle, a été censurée sur Instagram après avoir publié une photo où on la voit avec une tache de sang sur les fesses. Et on peut aussi parler de la photographe et égérie d'Adidas, Arvida Bystrom, qui a publié une série de photos non censurées pour Vice qui s'appelle « There will be blood ». On voit, enfin moi j'aime beaucoup, on voit des filles en fait qui font des activités de la vie de tous les jours, sauf qu'il y a du sang dans leurs culottes.
Ouais, c'est ça.
C'est génial.
C'est vrai que contre ce tabou, il y a certaines personnes qui pratiquent le « free bleeding ». Donc en français, c'est le « flux libre ».
En gros, c'est tu mets pas de tampon, pas de serviette, rien.
C'est ça, let it flow. Bon, moi, j'ai jamais essayé, mais.
Mais je me demande en pratique comment tu fais. J'ai une copine, moi, qui a essayé, qui m'a dit bah, tu vas aux toilettes. Mais si t'as un flux abondant, c'est quand même un peu chaud. Hein.
Ouais, je sais pas, il faut retenir.
Ouais.
Retenir à l'intérieur. Et un exemple dont on a beaucoup parlé à l'époque, c'est Kiran Gandhi, qui est l'ancienne batteuse de la chanteuse MIA. En fait, elle a couru son premier marathon à Londres. Et elle a tout laissé couler en courant. À l'époque, la presse a écrit qu'elle avait dégoûté tout le monde. Donc du coup, elle a décidé de raconter son expérience sur le site Medium. En fait, elle dit que quand elle a commencé à courir, elle a pensé que mettre une protection, ça l'empêcherait de bien courir. Donc elle s'est dit, bon, on va voir ce qui se passe, quoi, en fait. Et donc elle écrit, en courant, je pensais à la manière dont les femmes et les hommes sont socialisés à faire semblant que les règles n'existent pas. Donc c'est vrai que ça a vraiment aidé à visibiliser.
Ouais, mais tu vois, le fait de dire elle a dégoûté tout le monde, je comprends pas en fait. En quoi c'est dégoûtant, tu vois, c'est...
Ouais.
Je comprends toujours pas. C'est comme si on disait que le sperme c'est dégoûtant, dans certaines circonstances. Oui, mais c'est pas intrinsèquement sale, quoi.
Ouais, bah, c'est parce que c'est féminin, donc
c'est sale forcément.
Ouais. Alors il y a des pétitions qui ont circulé, car les règles, c'est aussi un enjeu écologique et médical.
Oui.
Les protections hygiéniques sont classées comme le papier. Et c'est plein de saloperies, de l'ammoniac, du pétrole. Il faut aussi savoir qu'à ce jour, en Europe et en France, on ne connaît toujours pas la composition précise des tampons et des serviettes.
Ouais,
et
c'est dingue.
Il y a eu quelques articles l'année dernière où les fabricants disaient qu'ils s'engageaient à donner leur composition, mais en fait, ce n'est pas vrai. Ils disent juste, ce tampon, par exemple, contient de la rayonne et d'autres... D'autres substances. Donc, les autres substances, on ne sait pas ce que c'est.
Surtout, c'est fou qu'il n'y ait pas un vrai boycott des utilisatrices, en fait, des actions de masse pour dire, en fait, on ne va pas mettre un truc sur des muqueuses intimes sans savoir ce qu'il y a dedans. Enfin, c'est dément, en fait.
Bah ouais, mais je pense que déjà, c'est le manque d'alternatives, peut-être, et aussi l'espèce de honte et de secret qui entoure ça, quoi. Et l'enjeu médical, c'est vraiment les femmes qui ont des règles très douloureuses. Et à tel point que ça devient handicapant, mais c'est pas reconnu comme tel. C'est genre, oh là là, allez, prenez un doliprane, ça va passer.
Donc, prends un spasfon.
Voilà. Donc on se pose la question, est-ce qu'il faut dérembourser ces médicaments, justement, qui sont des nécessités pour certaines femmes? Et est-ce qu'il faudrait pas un période day off, donc un jour de règle? Désolé, je suis pas là.
Ça fait débat, effectivement. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai une amie qui a raté un concours très très important qu'elle préparait depuis un an, parce que ce jour-là, elle avait ses règles. Donc voilà, du coup, elle a dû...
Il s'est passé quoi?
Elle
n'a pas pu se lever.
Non, en fait, elle prenait un médicament qui était très fort et donc elle était complètement fébrile et donc elle a tout raté. Elle a dû reprendre ses études pendant un an, repasser plus.
D'accord.
Merci, ça tombait bien. Sinon, on peut dire que c'est vrai que les règles cristallisent aussi un vrai enjeu économique aujourd'hui, vu le nombre de personnes que ça concerne dans le monde, quand même, plus de la moitié des gens, on le rappelle. Et la manière dont les consommatrices sont traitées aussi, puisqu'il y a eu ce qu'on a appelé la taxe rose, c'est-à-dire la différence entre les produits pour femmes et pour hommes. Donc en général, les produits pour femmes sont toujours plus chers, on ne sait pas pourquoi.
Mais si, on sait pourquoi.
Et heureusement, en 2017, pas mal d'activistes se sont mobilisés contre ce qu'on a appelé la taxe tampon, c'est-à-dire que les protections étaient taxées comme des produits de luxe, et pas comme des produits de première nécessité, ce qui est quand même un peu bizarre. Et donc, cette taxe a été baissée de 21% à 6%, donc c'est quand même juste la
comme
base.
Comme quoi, le fait que le capitalisme se régule naturellement, c'est pas vrai.
C'est ça, oui. Après moi, à titre personnel, je pense surtout que ça devrait être gratuit, mais bon, là, je pense qu'on n'en est pas encore là dans la réflexion.
Ça arrive, parce que si on reste en France, j'ai reçu plusieurs mails de la LMDE, la Mutuelle des étudiants, qui a annoncé qu'elle remboursait toutes les protections périodiques. Il suffit, si vous êtes étudiant, de garder vos tickets de caisse, preuve d'achat, et de les renvoyer à la LMDE. Ils remboursent jusqu'à 20 à 25 euros par an de protection hygiénique.
Ça, c'est cool.
Ce qui est peu, mais c'est quand même un premier pas.
Ouais, puis si t'achètes une cup, c'est bon pour l'année, quoi.
Ouais, quelle que soit la protection utilisée, donc cup, tampon, serviette, etc. Et un truc que je trouve très intéressant, c'est pour tous et toutes.
Ouais.
Ça veut dire que si vous êtes un garçon et que vous achetez les serviettes de votre petite sœur ou je sais pas, de quelqu'un, vous pouvez quand même vous faire rembourser. Et je trouve ça vraiment génial. Je trouve
que c'est inclusif.
Voilà, ils ont inclus tout le monde dans la problématique et c'est ce qui devrait être en fait le cas.
Ouais. J'attends que ma mutuelle se mobilise.
Voilà, oui, nous aussi, on n'est plus étudiante, mais on attend.
Ouais, qu'il y ait des distributeurs aussi,
Dans les entreprises.
Dans les bureaux.
Putain, mais dans les entreprises, ça devrait exister, quoi. Ouais. En Angleterre, on peut aussi parler des étudiants qui se battent contre la période poverty. Donc, les élèves qui ne peuvent pas aller en cours parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour se payer des protections en fait, hygiéniques. Donc ça, c'est plutôt cool.
Oui, puis surtout, ça touche tous les pays. On se dit, pas que...
C'est pas que les pays pauvres. Ouais. Même dans les pays riches, il y a des gens qui ont leurs règles.
Il y a une association qu'on aime bien aussi qui s'appelle Zana Africa. Du coup, elle donne des protections aux jeunes filles de certains pays d'Afrique qui ne peuvent pas aller à l'école les jours de règles parce qu'elles n'ont pas de protection. Donc, on vous recommande de les financer, de leur donner des sous. Et en France, il y a une autre asso qu'on soutient qui s'appelle Règles élémentaires et qui distribue des protections aux femmes SDF qui sont dans la rue parce que en fait on sait qu'elles ont besoin de manger, de se doucher, mais on pense jamais au fait que elles ont besoin de gérer leur flux en fait comme tout le monde. Donc voilà, pour les aider, on peut leur laisser des protections dans des boîtes qui sont installées dans certaines mairies, notamment dans le 18e arrondissement à Paris. Et c'est vraiment top. Sinon moi, pour m'inspirer, je suis pas mal d'activistes pop qui publient des choses sur les règles sur Instagram et qui ne sont pas censurés. Je recommande notamment Menstruagram Artist, qui fait un livre de coloriage, et donc elle fait des dessins super sanglants. Et il y a aussi le compte Tony the Tampon. C'est un petit tampon qui s'appelle Tony.
À qui il arrive des aventures.
C'est ça, et qui se balade un peu partout, donc je trouve que c'est assez drôle. Et...
Alors les règles, c'est aussi un enjeu capitaliste. La Startup Nation n'a pas attendu pour essayer de se saisir du sujet et de faire de l'argent.
Donc, comme d'hab.
Voilà, ils ont quand même essayé de colorer ça d'un peu de empowerment, genre on fait ça pour les femmes, pour leur bien-être.
Oui, ce soir.
Mais il y a déjà eu des dramas, en fait. Il y a déjà eu des crises dans la tech. Alors, il y a beaucoup de produits qui proposent le fait de pallier à ce qu'on a à notre disposition, qui, comme on l'a dit, sont des produits qui ne sont pas idéaux, parce que, voilà. Mmh. Par exemple, il y a les tampons non blanchis aux produits toxiques de Cora, mais qui sont chers et américains, donc il faut payer les frais de port. Il y a aussi beaucoup de boîtes qui ont lancé leur propre moon cup avec un marketing genre si tu es une hipster, tiens ta moon cup c'est celle-là. Et puis il y a aussi les culottes Thinks dont on avait déjà parlé, qui sont controversées parce que leur CEO, donc leur boss, était une harceleuse en fait.
Ouais, c'est ça.
Donc, voilà. Merci.
Une compagnie bien managée.
Ouais. Donc c'est vrai que voilà, comme on l'a dit, on voit qu'il y a un besoin, on voit qu'il y a quelque chose potentiellement où on peut essayer de changer les mentalités et au passage faire de l'argent, mais ça, il y a comme d'habitude toujours des problèmes d'ego, quoi.
Il y a aussi la marque Nana qui a sauté sur l'occasion en faisant la première pub où le sang menstruel n'est pas bleu. Donc c'était. Ouais.
Enfin, ça, moi, je me dis, mais déjà,
cette année,
comment c'est arrivé que le sang soit bleu? Tu dis,
t'es là genre, mais attends, c'est la dissonance cognitive. T'es là genre, ah, mais je reconnais.
Enfin,
c'est ce qui m'arrive tout le temps. Et donc, après, évidemment, dans ces pubs-là, c'est toujours des filles qui font du twirling bâton ou de l'escalade ou le grand écart avec un grand
heureusement,
sourire.
Heureusement, Nana est là.
Moi, que j'ai mes règles, j'adore me suspendre à mon lit. Et puis, j'adore coller cette serviette qui fait deux fois ma tête au fond de mon slip. T'as vu, il est beau, mon doigt.
Ouh, yeah.
Qui c'est qui a pété?
Et puis, quand on a nos règles avec mes copines, on s'habille tout en rose et on fait la danse de la monstrue.
Un et deux et un et deux.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est toujours très, très réaliste.
Il y a aussi un bouquin dont je voulais parler qui s'appelle « Le grand mystère des règles pour en finir avec un tabou vieux comme le monde ». C'est écrit par Jack Parker et c'est publié aux éditions Flammarion. C'est un peu un récit de son expérience personnelle et de son intérêt pour les règles parce qu'elle a lancé, c'est une journaliste, et elle a aussi lancé un blog qui s'appelait « Passion menstrue », qui est, je pense, défunt aujourd'hui. Mais dans ce livre, elle raconte vraiment son expérience avec les règles et je trouve ça intéressant. J'ai un petit extrait qui m'a bien plu. De nombreux enfants et jeunes ados grandissent dans la peur et le dégoût de leur corps et de leurs règles parce qu'on ne leur a jamais vraiment expliqué ce qui se passait, ni appris à ne pas en avoir honte. Les pubs et notre environnement social nous enseignent la même chose. Il faut cacher ces règles, il faut que le moins de personnes autour de nous soient au courant qu'on les a, et il faut ne surtout pas en parler.
Ouais. Donc n'hésitez pas à sortir vos serviettes et vos tampax quand vous êtes au resto, au lieu de dire « j'emmène mon sac aux toilettes !» C'est ça. Sinon, on a quelques conseils.
En bullet point.
C'est ça, si vous avez vos règles, si vous connaissez des gens qui saignent ou pas.
Ne demandez pas aux gens s'ils ont leurs règles. Quand ils sont émus ou en colère, ce sont des émotions légitimes.
Sinon, ce serait sympa de prendre la douleur au sérieux, parce qu'il y a aussi des gens qui ont de l'endométriose, par exemple, ou juste des règles très très douloureuses. Donc voilà, merci pour elles.
Les hommes trans ont aussi parfois leurs règles, et il y a plein de femmes qui n'ont pas leurs règles, pour cause d'aménorrhée, de ménopause. En gros, faut pas essentialiser.
Sinon, on vous recommande de vous abonner à la newsletter The Bleed, diffusée par Anne Friedman et Amina Tousseau, et pleine de bons conseils.
Et on vous conseille aussi de vous abonner à la newsletter de ma chatte du blog Les Flux de Clus, avec plein de tutos et de tuyaux do it yourself pour se tripoter la zézette.
Vous pouvez retrouver toutes les références dans la description de l'épisode. Le moment pop culture. Alors, comment est-ce que la pop culture a abordé cette épineuse question ? Moi, en essayant de me remémorer des scènes cultes, je me suis souvenue que c'était assez souvent un ressort comique propice aux punchlines les plus lourdingues. Et notamment, une des pires scènes pour moi est dans le film Super Grave, donc la comédie Super Grave. Mmh. C'est une scène où Jonah Hill, l'acteur Jonah Hill, danse avec une fille qui, soi-disant, a ses règles et sur lui. Et donc, elle se frotte à lui et donc il y a du sang sur son pantalon.
Oh, shit!
Il s'en rend pas tout de suite compte et finalement il fait un esclandre, il est complètement dégoûté et c'est censé être très très drôle. Voilà. Boring. Et à l'inverse, deux filles qu'on aime beaucoup en ont fait une scène très drôle. C'est dans un épisode épique de la série Broad City où l'une des deux héroïnes est dans un avion en partance pour Israël.
Ah oui.
Et donc là,
mythique, cet épisode.
Panique, elle a ses règles et elle a rien pour se protéger. Et donc merde, comment est-ce qu'elle va faire ?
Someone on this plane has got to have a tampon. Yeah, you're right. Let's do this.
Et finalement, elle finit par se fabriquer une serviette avec un falafel. Lol.
Et d'ailleurs, il y a un moment dans cet épisode qui m'a tellement résonné. C'était, elle va voir une fille, elle fait « T'as pas un tampon ?» Et la fille, elle lui sortait le tampon première règle, oui. Tout petit et tout.
Elle est là « Merde, tu sers à rien !» Et c'est vrai que sinon au cinéma les règles, enfin souvent surtout chez des cinéastes ou des scénaristes hommes, ont été un motif du cinéma d'horreur et du cinéma gore.
Comme c'est original.
Oui, c'est ça. Ouh, ça fait vraiment peur. Je pense notamment à Carrie de Brian De Palma avec Sissy Spacek qui est toute jeune dans le film.
La scène où elle se prend des tampons dans la
C'est ça, la scène vraiment au début du film. Ouais. Donc c'est un film extrêmement sanglant par ailleurs qui parle de la monstruosité du corps adolescent et qui débute en fait par le traumatisme de cette pauvre fille qui a ses règles et qui ne comprend pas ce qui lui arrive parce qu'elle n'est pas au courant.
Parce que sa mère est catho-intégriste.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc en fait, toutes les filles du lycée se rassemblent dans la douche pour se moquer d'elle et lui balancer à la gueule des tampons. Et c'est vraiment une scène d'horreur, quoi.
Moi, j'ai repensé à une scène géniale de la rom-com Sex Friends avec Nathalie Portman et Ashton Kutcher. En fait, c'est le groupe de copines. Donc, il y a Greta Gerwig, qu'on aime d'amour,
oui.
Mindy Kaling et Nathalie Portman et un pote à elle. En fait, elles sont toutes réunies chez Nathalie Portman parce qu'elles sont synchro sur le cycle. Elles ont toutes leurs règles en même temps. Donc, elles sont toutes allongées par terre sur le canapé. Elles font « Non, me parlez pas, je souffre !» Elles se font des gâteaux et tout. Et là, t'as Ashton Kutcher qui sonne et qui dit « Salut, je peux venir ?» Et elles lui font « Non, casse-toi !» Et il fait « Non, mais attendez, j'ai des cupcakes !» Donc, elle le laisse rentrer. Et là, l'histoire, c'est comment Nathalie Portman et Ashton Kutcher se mettent ensemble. Mmh. Il a amené un CD à Nathalie Portman. C'est un period mix avec que des chansons mythiques. Genre,
une mixtape.
Une mixtape, genre Sunday Bloody Sunday. Et c'est une des choses qui fait que Nathalie Portman tombe amoureuse de lui.
Adam, did you make me a period mix?
That's so romantic.
Un bon allié.
Voilà.
Les recommandations
culturelles.
De quoi de neuf ?
Est-ce qu'on a des recommandations cette semaine?
Oui.
Moi, personnellement, pour rester dans le thème, je voudrais recommander un spectacle de stand-up, le bien nommé Chatologie, qui est animé par Claire Fégreux. Ça se passe au Théâtre des Trois Bornes jusqu'au mois de juin pour l'instant.
À Paris?
Ouais, à Paris. Et donc, c'est un spectacle intégralement consacré aux règles. Donc, allez-y. Il y a notamment un moment où elle décrit l'utérus comme un psychopathe qui refait le salon tous les mois et qui pique une crise s'il n'y a pas de bébé et qui détruit toute la déco. Donc, je trouvais que l'analogie était assez bien trouvée. Bon, de manière moins drôle, elle dit aussi, et on est assez d'accord, que c'est effectivement hallucinant qu'en 2018, les femmes continuent à souffrir et que, voilà, si les mecs avaient leurs règles, la question aurait été réglée depuis longtemps. Voilà, donc c'est drôle et pédagogique. Allez-y.
Eh bien moi, alors pour rester dans le sang, je vais vous parler de mon revisionnage annuel de Buffy contre les vampires, parce que pour moi, c'est une série très très importante. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un classique féministe, on peut le dire. Buffy, c'est une série américaine des années 90-2000 qui relate l'histoire donc, de Buffy, qui est une jeune lycéenne californienne qui va à l'école le jour et combat les monstres et les démons de sa ville, Sunnydale, la nuit.
Donc des vieux démons en carton, quand même.
Voilà,
c'est mal vieilli.
Après, ça s'améliore un peu, mais c'est jamais le point fort de la série, on ne va pas se mentir. Le point fort, c'est vraiment les dialogues, le scénario, la recherche scénaristique. Bon, les démons représentent l'adolescence et la peur de devenir adulte. Parce que Buffy vit sur la bouche de l'enfer.
Ça tombe bien.
Voilà. Et l'héroïne principale, donc Buffy, elle est forte et faible à la fois. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les personnages secondaires, ses meilleurs amis sont captivants. Il y a une créativité scénaristique qui a, on peut le dire, révolutionné l'histoire des séries. Parce que Buffy, c'est une série qui avait un peu rien à perdre et donc qui s'est permis toutes les extravagances possibles. Notamment, ils ont fait un épisode sans dialogue, ils ont fait un épisode sans musique, un épisode entièrement musical, un épisode sur une tuerie scolaire.
Ouais, ça.
Donc Buffy, c'était aussi le premier baiser lesbien à la télévision.
Ouais.
Voilà. Donc moi, personnellement, j'ai grandi avec Buffy. Ça représente vraiment mon adolescence. Je m'y replonge régulièrement. C'est un peu comme, tu vois, je vais tous les deux ans. Allez, boum, les sept saisons. La première saison est kitsch. D'ailleurs, c'était ça que je t'avais prêté.
Ouais.
T'avais dit, ah là là, c'est un peu kitsch quand même. Mais moi, j'aime bien quand même. Mais c'est vraiment à partir de la saison 2 qu'on s'aperçoit de ce que Buffy va préfigurer, en fait, que ce soit en termes d'épisodes pris séparément ou même juste d'arc. Vraiment, ce truc d'arc, de personnages qui évoluent d'un point A à un point B entre le début et la fin de la série, quoi. Donc, je recommande pour les gens qui ne l'ont pas vu.
Allô ?
Allô ?
T'as une question ?
Quoi de meuf vous écoute ?
Alors, cette semaine, on a reçu un message de Jeanne qui nous dit: chaque année, ma boîte offre, à l'occasion de la fête des secrétaires, un cadeau à toutes les femmes de l'entreprise. Quand j'en parle autour de moi, tout le monde trouve ça ahurissant et inacceptable. Par contre, au bureau, ça ne choque pas grand monde. L'année passée, le cadeau du gel douche parfumé m'était remis par mon chef, à qui j'ai expliqué que je trouvais ça déplacé, car cela assimilait le travail de toutes les femmes à un travail de secrétaire. Il avait l'air de comprendre mon point de vue, sans pour autant y adhérer. Je lui ai demandé de relayer le message aux ressources humaines, malgré tout. Cette année, déception, revoilà le cadeau. J'ai donc été voir moi-même la DRH. Elle m'a regardée d'un air désabusé et un peu méprisant et m'a dit que je suis bizarre. Elle m'a demandé si je préférais ne pas recevoir de cadeau. Je me suis vraiment sentie comme la chialeuse de service qui se permet de venir râler alors qu'elle a reçu un cadeau. J'ai essayé de lui expliquer pourquoi c'était selon moi problématique, mais elle y a été complètement insensible. Pouvez-vous m'aider avec quelques arguments ? Vas-y Clémentine, je te laisse répondre.
Par où commencer ? D'abord, je dirais que toute l'inertie du monde de l'entreprise se trouve rassemblée dans ce message. Donc, beaucoup de compassion pour cette personne qui a l'air de lutter seule au sein de sa boîte. Donc, Jeanne, j'ai l'impression que tu as fait tout ce qu'il fallait jusqu'ici. C'est-à-dire que tu as communiqué aux personnes concernées, donc ta hiérarchie et les RH, ta désapprobation. Et c'est vrai que c'est très dégradant et condescendant et aussi archaïque, on peut le dire. C'est un peu comme les boîtes qui fêtent les Catherinettes, donc les filles qui ne sont pas encore mariées à 25 ans.
Bonne à choper.
C'est ça, donc non merci. Moi, ce que je peux conseiller, c'est ce que recommande Jessica Bennett, qui est la gender editor du New York Times. En fait, elle a publié un livre dont on a déjà parlé ici, qui s'appelle le Fight Club Féministe. Et elle recommande en fait de faire des actions groupées. Si on est seul et que ça ne fonctionne pas. Elle dit qu'il faut que les femmes relaient et appuient la parole des autres femmes en entreprise pour être entendues. D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les femmes à la Maison-Blanche sous Obama. Apparemment, ça a plutôt bien fonctionné. Moi, je me demandais, est-ce que tu as pu en discuter avec d'autres de tes collègues, femmes ou hommes alliés, pour pouvoir peut-être en parler ensemble, faire une action groupée à plusieurs et avoir plus de poids. Voilà, moi, ce serait mon conseil.
Alors moi, j'ai une petite idée d'action groupée. Pourquoi vous ne faites pas, par exemple, hein, ça me vient comme ça, mais un jour, des stagiaires, ils vous offrent un cadeau, mais que aux mecs de la boîte. Comme ça, tout leur taf, c'est en fait, c'est du taf de stagiaire, quoi. Tu
si vois possible, un slip kangourou.
Non, mais trouver un truc un peu comme ça pour leur montrer en fait que c'est rabaissant parce que là ils se disent oh la meuf elle reçoit un cadeau et en plus elle se plaint. Faut leur montrer qu'en fait non, c'est juste le concept en lui-même qui est problématique et qui nous gave. Hein. Mais c'est vrai que c'est compliqué, comme tu dis, l'inertie, tout le monde dit oh là là, pourquoi elle dit ça.
Non, mais c'est vrai qu'en féministe. Inversant, souvent on se rend compte que c'est problématique.
Oui. C'est ça, c'est une bonne technique en fait d'inverser la tendance et de montrer qu'en fait non, ce n'est pas normal.
Voilà, c'est tout pour cette semaine.
On rappelle que tous les liens qu'on a évoqués durant l'émission seront dans la description de l'épisode. Bon ben, Clémentine, à bientôt.
À bientôt.
Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Vous pouvez nous retrouver chaque dimanche dans la newsletter Quoi de Meuf. Abonnez-vous sur quoidemeuf.net si ce n'est pas déjà fait.
Et vous pouvez aussi aller sur Apple Podcasts et nous laisser une note, 5 étoiles de préférence, ce serait super. On est aussi sur Twitter et Instagram, sur @quoidemeuf. Et on se retrouve au prochain épisode.
Bye girl.
Girl, bye.
Quoi de Meuf est une émission de Clémentine Gallo et Mélanie Wanga, produite par Nouvelles Écoutes, avec à la réalisation sonore Aurore Meyer-Mailleux, à la prise de son Maxime Olivier, au montage et au mixage Laurie Galigani.